Bonjour chers auditrices, chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour EJT Foot, le cinquième épisode de la saison. La série de 3 matchs en 8 jours a bien démarré ce week-end pour le TFC. Les Violets se sont imposés 2 buts à 1 au Stadium face à Niort grâce aux réalisations de Van Den Bomen et L.A. Les Toulousains se relancent après leur revers face à Valenciennes et le nul à Chambly le week-end dernier. Nous reviendrons sur ce match avec nos chroniqueurs Axel et Thomas. Il y aura bien évidemment les traditionnelles rubriques, le TEF Actu, le Top d'éclat et le quiz pour terminer en beauté. En bonus cette semaine, nous ferons un retour vers le passé en évoquant le légendaire match de la légende Maradona au Stadium, un soir de 1986 en Coupe UEFA. Il est l'heure de commencer avec le TEF Actu préparé par Victor Coudreau. Alors Victor, les chances de voir le TEF en Coupe d'Europe l'année prochaine étaient infimes, elles sont maintenant quasi nulles.
Oui Julien, le président de la FFF, Noël Le Graët, est sceptique quant au maintien de la Coupe de France cette saison. Sur le plateau de France 3 Bretagne, il a ainsi dit « c'est presque cuit, je ne vois pas comment disputer cette compétition dans les dates, sauf à jouer jusqu'à fin juillet ». Étant donné que nous sommes en année d'Euro et de JO, ça semble en effet bien compromis. Alors le côté positif, c'est que ça évitera au TEF d'être éliminé entre 32e de finale par Saint-Privé-Saint-Hilaire.
En effet, un mal pour un bien peut-être. Et je vois Victor que tu vas aussi nous parler d'Athem Ben Arfa.
Et oui Julien, le site lesviolets.com, à notre grande surprise, nous indique que le milieu de terrain actuellement au Jardin de Bordeaux a été proposé au TFC cet été. Alors qu'il était libre de tout contrat, un agent aurait posé le CV de Ben Arfa sur le bureau de Damien Comolli. Le président du TEF n'a pas donné suite pensant que c'était impossible. Au final, son salaire est de 100 000 euros par mois, un chèque pas infaisable pour les Violets. Et quand on voit le niveau actuel du joueur avec les Girondins, on se dit qu'il pourrait faire du bien.
Malheureusement, on ne le saura jamais. Une petite stat pour finir, Victor?
Si vous voulez voir des buts du TEF, un conseil, évitez de rater le dernier quart d'heure. Depuis le début de la saison, sur les 19 buts inscrits, 8 l'ont été après la 76e minute. Lorsqu'on pourra retourner au stade, il ne faudra pas partir avant le coup de sifflet final. Et tant pis pour les bouchons.
En même temps, Victor, quel passionné de foot quitte un match avant le coup de sifflet final. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces actus. Nous allons parler du match dans un instant. Mais avant cela, si vous ne vivez pas dans une grotte, vous savez que la légende Diego Armando Maradona nous a quittés à l'âge de 60 ans. Il a fait rêver tous les fans du ballon rond sur tous les terrains du monde, dont le Stadium, où il a joué un match face au TFC évidemment, lors du 32e de finale de la Coupe UEFA 1986-1987. Thomas, bonjour, tu as recueilli le témoignage d'une personne qui était au stade ce jour-là.
Salut Julien, comme tu le disais, mercredi dernier, Diego Armando Maradona est parti rejoindre les étoiles. El Pibe de Oro est décédé à l'âge de 60 ans, des suites d'une crise cardiaque. Que l'on ait été contemporain de ce 10 majestueux, ou comme la plupart des voix que vous allez entendre ce soir, que l'on ait été émerveillé devant des extraits vidéo, le gosse qui est né dans la poussière d'un bidonville de Buenos Aires n'aura laissé personne indifférent et aura marqué à jamais l'histoire du football. Wafik, fervent supporter toulousain et barman préféré de l'EJT, nous raconte l'émotion qu'il a traversée au moment où il a appris la mort de l'auteur de La Main de Dieu.
Honnêtement, j'avais les larmes aux yeux. Franchement, c'était un immense joueur, déjà. Et puis, le fait, si tu veux, que tu as ces souvenirs, que tu l'as vu ce joueur, c'est émouvant, quoi. Émouvant en même temps, c'est pas seulement footballistiquement, c'est sa vie en fait. C'est un roman, quoi. Enfin, on peut pas s'imaginer ce joueur, comment il a une telle charisme dans ce monde, quoi. 86, c'est lorsqu'il a gagné la Coupe du Monde. Putain, mais je voyais que lui sur le terrain. Et en fait, je vois que lui, il a gagné la Coupe du Monde, c'est pas l'Argentine. C'est lui, c'est Diego qui a gagné la Coupe du Monde.
À EJT Foot, on était obligés de revenir sur le mythique TFC Naples qui a eu lieu le 1er octobre 1986. À l'heure où vous écoutez ce podcast, cette rencontre reste encore le plus grand exploit de l'histoire des Violets. Au premier tour de la Coupe UEFA, les Toulousains affrontent le Napoli du milieu offensif argentin. Battu en Italie au match aller, le TFC fait le travail au match retour. Wafik nous parle de ce que ça fait de voir Maradona jouer et revient avec nous sur ce match si particulier qu'il a vécu au Stadium.
Je pouvais absolument pas arrêter Diego Maradona au Stadium, quoi. Ah ben, tu sais, lorsqu'il touche le ballon, tu vois la différence directe avec un joueur, quoi, n'importe quel joueur. Le ballon, il est collé à lui. Il est collé. impressionnant. Et lorsqu'ils partaient, ben, maintenant, les Toulousains, ils ont trouvé le moyen, en fait, parce qu'ils ont joué le match aller à Naples. Ils lui ont collé à l'époque Benoiti, là. Et en fait, il a réussi à le contrôler. N'empêche qu'ils avaient une belle équipe, quand même, les Toulousains. Hein. C'est au niveau, il y avait quand même que des internationaux. Hein. C'est pas de la tarte non plus.
Pas de la tarte, c'est sûr. Il avait notamment Gérald Passy, qui jouait pour le TEF. Grâce au but de Yannick Stopira, les Violets amènent Naples en prolongation.
La prolongation avec le... On était fous de joie, en fait, avec... lorsque Stopira, il met son but. On était fous, quoi. Le péno, en fait, il y avait Bergerot dans le but. Et puis Tarantini, il s'approche de l'autre Argentin. Et il dit à Bergerot, quand Diego tire son pénalty, ne bouge pas. Ne fais pas un geste. Et si tu bouges, il va te le mettre là où tu veux. Alors ne bouge pas. Et en fait, Diego, lorsqu'il a avancé pour tirer le tir au but, là, du moment où l'autre, il a pas, il voulait placer le ballon, mais vraiment au dernier moment, quoi. Le ballon sort, et là, il réalisait pas encore Bergerot qu'on est qualifié. Nous, on était fous de joie, quoi. On est parti au Capitole, fêter ça jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, on n'a pas dormi. C'est énorme, et en même temps, tu vois, Maradona, il s'est allongé par terre comme ça. Pour moi, vraiment, j'ai vu le match qu'il faut dans ma vie en regardant des foot, quoi. Honnêtement, ça reste le plus beau match, quoi, que j'ai vu au stadium.
Une victoire mythique face à un dieu et ses coéquipiers. Au-delà d'être un génie du ballon rond, Maradona doit sa popularité à son aspect très humain, qui a su émouvoir son peuple, mais aussi la planète. Le JT Foot tient par cette chronique à rendre hommage à un monument de notre sport préféré. On laisse les mots de la fin à Wafik.
Nous, en fait, qu'on le connaît, qu'on le fréquente, c'est bizarre, quoi. Ça fait un sentiment bizarre. C'est un ensemble, un grand joueur. C'est un ensemble. Et il meurt avec le tatouage de Che dans un pays qui a eu la dictature. C'est impressionnant. Et il était attachant. C'est vraiment. Et enfin, c'est ça, ce qui a fait sa force. Les gens, ils s'attachaient à lui. Et ça restera Diego, quoi.
Magnifique, et en effet, on aurait bien aimé être né pour voir ça à EJT Foot. Merci beaucoup Thomas, reste avec nous car tu as vu le match de ce week-end et tu vas le débriefer tout de suite. Avec moi pour analyser cette rencontre, Thomas donc, mais aussi Axel. Salut Axel.
Salut Julien.
Samedi, le TEF a gagné face à Niort au Stadium sur le score de 2-1. Van den Bomen, d'une très belle frappe enroulée aux 25 mètres à la 9e minute, et Risselet, d'un plat du pied après un caviar de Van den Bomen à la 79e, ont répondu à l'ouverture du score des Niortais dès la 7e minute de jeu. Toulouse se relance après le match fou face à Valenciennes il y a 2 semaines et la contre-performance face à Chambly la semaine dernière. Les Violets sont 7e à 1 point de Clermont, premier barragiste, et à 3 points de Grenoble, 2e. La première surprise du match était le schéma tactique. Un 4-3-3 a été mis en place par Patrice Garande. Qu'en avez-vous pensé ?
Personnellement, le 4-3-3, on avait parlé de l'animation offensive la semaine dernière. Là, j'ai l'impression qu'il a voulu changer et mettre Adli et Antis sur les côtés, sauf que c'est pas leur poste, quoi. Tu mets deux joueurs d'axe sur les côtés, ils étaient perdus les deux. Je sais pas ce que t'en as pensé, Thomas, mais Antis, il a raté tous ses contrôles. En plus, il n'était pas aidé par Moreira juste derrière, et Adli, il faisait que des zonés, quoi.
Ouais, comme tu le dis, surtout Moreira, en fait, j'ai l'impression que ça a totalement déstabilisé la défense toulousaine. On l'a senti bien moins serein. Malgré du coup le retour de Fodé Diakité, on sentait un Moreira qui ne savait pas où se placer finalement, qui des fois soit il était trop haut, soit il était trop bas. Enfin, c'était non plus, je suis d'accord avec toi, c'était pas idéal. Hein.
Il y a donc pas mal de soucis offensifs, malgré un surnombre au milieu, en attaque, par rapport à une défense à 5.
Ben, le problème de la défense à 5, c'est que, plutôt défense à 3 avec deux pistons, il faut que les pistons servent à quelque chose. Mais jusqu'à présent, quand il y a Machado, côté gauche, c'est pas mal. Mais côté droit, parfois c'est un peu juste. Alors là, quand c'est Moreira et Amiens, face aux deux, là, Mokancho et Yangua, ils se sont fait bouffer les deux hein, pendant tout le match. Ils n'en ont pas vu une.
Ouais, clairement, t'as totalement raison, Axel, je te rejoins là-dessus. Surtout, t'avais, voilà, il y a aussi une notion de déséquilibre. T'avais du coup un Moreira, comme je disais tout à l'heure, un peu trop haut, et un Amiens qui était certes solide défensivement, mais qui était trop bas. Donc franchement, voilà, tu l'as pointé aussi, Yangua et aussi Mutachi. En face, c'était vraiment au-dessus, et donc c'était vraiment un match très compliqué pour la défense toulousaine. Hein.
Oui, donc des soucis en animation offensive, donc avec les pistons qui font pas forcément leur boulot. Et la défense à 3, justement, ou à 5, comme l'a dit Axel, c'est comme bon vous semble. C'était la première fois qu'elle a été alignée depuis la défaite contre Grenoble lors de la deuxième journée. Depuis, Patrice Guirande avait aligné seulement trois axios. Enfin, la défense à 2, pardon, excusez-moi. C'était à chaque fois une défense à 3. Et là, la défense à 2, on a senti beaucoup d'errance, en fait. Est-ce que c'était la bonne formule ou est-ce qu'il faut mieux revenir à un système à trois axios?
En fait, ce qu'on a vu, surtout, c'est un retour de Bafodé Diakité qui n'était franchement un peu intermittent en début de rencontre. Tu me diras aussi ce que tu en as pensé, Axel, mais c'était un peu hésitant. Aussi, on a senti le manque de Rouault. Rouault qui, certes, est jeune, certes, c'est voilà, c'est sa première saison, mais pourtant qui fait vraiment le travail avec son insouciance et qui va vraiment au duel. Là, ouais, non, les deux ont eu un peu de mal à prendre leur marque lors de cette rencontre. Finalement, Gabrielson était un peu plus rassurant que Bafodé Diakité, notamment au niveau des duels aériens. Mais bon, c'est sûr que c'était pas l'assurance tout risque.
Bah, c'est vrai que dans cette défense à deux, on se disait qu'il manquait Rouault parce que s'il se faisait manger sur tous les ballons longs, hein, Diakité, il perdait tous ses duels, Mendes et Ba devant, ils se régalaient. En plus, Mendes et Ba, ils avaient l'air d'avoir une complémentarité, comme s'ils jouaient les matchs tous les dimanches, mais faut savoir que Mendes, il n'est pas tout le temps aligné. Plutôt Pape Ba, le leader de l'attaque côté Niort. Et pendant toute la première mi-temps, après les deux premiers buts qui sont arrivés très vite. Dès qu'il y avait un ballon en hauteur, on sentait la défense toulousaine aux abois, quoi. Après, concernant la défense, ce qu'on peut dire aussi, Gabrielsen, faut il faut qu'il fasse très attention parce qu'en deuxième mi-temps, il y a une grosse erreur d'inattention où il fait une passe dans l'axe pour Diakité, c'est récupéré par un attaquant, ça peut donner le but de la victoire pour Niort. Mais ouais, là, je pense que le retour de la défense à 3 sera peut-être intéressant. Il l'a remis à la fin du match, à 3 centraux. Et le TEF était beaucoup plus solide sur les ballons en hauteur, en tout cas.
Peut-être que la défense à 3 permet de combler les faiblesses des deux centraux. Une défense à deux axiaux peut-être n'est pas suffisante. À 3, c'est plus solide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs.
Bah, ça reste à voir, mais c'est sûr que pour l'instant, quand on voit le début de la saison, ça marchait plutôt bien ce schéma tactique. Je vois pas Patrice Guirande innover contre Nancy, en fait, finalement. Donc je pense qu'il va rester ou peut-être revenir à son 3-5-2. Voilà. Honnêtement, moi personnellement, le 4-3-3 ne m'a pas convaincu. Donc voilà, pourquoi pas revenir aux bases pour rester un peu plus solide défensivement et pouvoir se projeter un peu plus simplement.
Bah, on aura plus d'informations ce mardi contre Nancy, mais ce serait. Enfin, si on veut remettre un 3-5-2, il nous faut absolument Machado à gauche, que Rouault revienne dans l'axe, comme ça Amiens sur la droite, il est un peu plus libéré, il peut commencer à attaquer, ou Morera aussi, il sera un peu plus libéré de tâches défensives, quoi.
Ouais, totalement, t'as raison. Morera, pour moi, de toute façon, c'est compliqué, hein. En latéral gauche, on l'avait déjà vu finalement, même en Ligue 1. En Ligue 1, il avait été vraiment. Autant c'est un joueur qui sait très bien se projeter, qui peut être très intéressant, je pense, offensivement parlant, mais défensivement parlant, voilà, il est aux abois souvent, il a vraiment du mal. Donc pourquoi pas peut-être l'utiliser un peu plus haut, peut-être pourquoi pas au milieu. Et justement, comme tu disais, voilà, compter sur Machado pour assurer les efforts défensifs. Voilà, je pense que c'est un peu cette piste-là que Patrice Guirande devrait un peu étudier.
Et très bien, donc ça vous a vraiment pas convaincu cette défense à 4. On va maintenant faire un focus sur un seul joueur en attaque, c'est Rhys Ealay, l'attaquant anglais et gallois, enfin britannique, disons, pour simplifier. Il avait été seulement titulaire, c'est sa première titularisation, pardon, il avait joué seulement des bouts de match et il avait déjà marqué un but face à Auxerre pour la première victoire du TFC. Et là, pour sa première titularisation, il marque. Est-ce que Patrice Guirande a trouvé son avant-centre?
Je te laisse commencer Thomas parce que je sais que ça te tient à cœur, hein, toi qui aimes bien Rhys Ealay, mais je pense qu'on va pas être d'accord sur ce sujet-là.
Sachant qu'il y avait aussi
Justement,
d'autres avancantes sur les ailes, il y avait d'autres avancantes sur les ailes, notamment Antis, etc. Patrice Guirande a pléthore d'avant-centre, et peut-être que Rhys Ealay est la solution.
alors bah justement, moi je voulais laisser Axel commencer pour avoir ses arguments, mais je vais y aller, je vais me lancer. En fait, non, moi ce que j'ai bien aimé sur Rhys Ealay, ce qu'il apporte, c'est vraiment son jeu un peu en pivot, ce qu'on peut finalement retrouver hein, avec Koulouris. Mais voilà, là, je trouve qu'à chaque fois il a touché peu de ballons, j'ai pas la stat malheureusement, mais il a touché peu de ballons contre Niort, du coup, samedi. Mais à chaque fois qu'il a touché la balle, il a réussi à la bonifier, à garder un peu, avoir voilà, ce jeu un peu dos au jeu, et finalement à orienter un peu. Voilà, ce qui n'est pas le cas des fois, malheureusement, de Koulouris, même si c'est un peu son même profil. Et surtout, voilà, on voit sur le but, sur voilà, la super passe de Van den Bomen, voilà, il a le geste de l'attaquant, en fait. Et pour moi, voilà, il est jeune. Certes, c'est pas l'attaquant le plus clinquant, Mais honnêtement, moi, je pense que il mériterait un peu de le voir un peu évoluer plus longtemps. Il va sûrement être titulaire du coup ce mardi contre Nancy. Donc voir un peu aussi pour que la complémentarité, notamment avec le jeune Adli et Antiste, se fasse. Parce que finalement, voilà, je pense que finalement, oui, Antiste, et je pense que tu vas en parler, Axel, mais Antiste est bon devant, clairement. C'est carrément moins intéressant sur un côté, mais peut-être pourquoi pas l'associer avec du coup Ellie en pointe. Parce que Antiste tout seul, voilà, j'ai un peu plus, j'y mets un peu plus de réserve.
Normalement, ton neuf, c'est Coloris, sauf que là, il est au placard. Il ne l'a même pas appelé pour le prochain match, là. D'ailleurs, en conf de presse, il l'a pas raté, Patrice Garande. Mais ouais, Lé, moi, je le trouve. Franchement, je le trouve rigide, je le trouve. Enfin, il est lourd. Techniquement, c'est pas excellent. Alors, ouais, il sait conserver un ballon, heureusement, hein, parce que sinon, il ne sait pas faire grand-chose.
Oh, je te
Et
trouve
il
dur,
pense.
je te trouve très dur. Parce que.
Franchement, c'est. Il plante, ok, il a planté, c'est vrai que Antis, il en a raté aussi la dernière fois, des face-à-face, au moins lui il l'a mise. Mais c'est pas avec ça que tu vas monter quand même, hein, à mon avis. Il faut un attaquant d'une autre qualité. Giannis Antis, c'est
Oui,
un
mais.
vrai neuf technique. Alors Giannis
Oui, mais
Antis, il
comme
lui
je
faut
dis,
quelqu'un
ouais.
à côté, mais dans l'idéal, ce serait soit Adli, avec qui il peut bien combiner, soit Coloris. Mais
Bah
Elez,
après, on
c'est un
a.
mec qui doit être dans la rotation.
Ouais, mais on a attendu longtemps cette complémentarité Antiste-Adli. On voit que ça a été plus compliqué, notamment pour Adli quand Antiste est revenu. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment mieux. Tu vois, tu me parles de. Là, tu as juste titre de Koulouris qui s'est pris une bastos par du coup Patrice Garand en conf de presse, qui a dit que bah, finalement, son niveau international, il attendait toujours, notamment avec le TEF. Mais pour moi, honnêtement,
On
il faudra
l'attend
voir au
aussi, ouais.
mercato hivernal après. Il faudra voir au niveau du mercato hivernal, pardon. Tout simplement, peut-être prendre une recrue. Mais pour l'instant, voilà, on fait avec ce qu'on a. Et honnêtement, moi, je pense que il y a encore cette histoire de complémentarité. Finalement, Adli et Antiste et Alé, ils n'ont pas fait beaucoup de matchs ensemble, si ce n'est peut-être leur premier, tous les trois, sur le front de l'attaque. Alé, il a touché peu de ballons, certes, face à Niort, mais il faut dire qu'il n'était pas non plus énormément alimenté. Et je pense que ça, c'est un truc qui viendra progressivement. Il faut lui laisser la chance. Et pour l'instant, comme je répète, je le dis, il n'y a pas forcément 10 000 options. Donc pour moi, honnêtement, c'est
On
sûrement
verra.
la meilleure.
On verra ce que fera Garand. Il va peut-être continuer à le mettre du coup, puisqu'il vient de marquer. Mais à l'avenir, je préférerais quand même voir un anti-Stadley devant qu'un ailier tout seul, quoi.
Mais si ça, du
Nouvelle
coup, tu
terre.
rajoutes qui en ailier finalement? Excuse-moi, mais du coup, tu passes en quelle
Bah
formation ou...
t'as pas beaucoup d'ailiers, hein. C'est ça le gros souci aussi du TEF. Bah t'as
Parce que là,
beaucoup
du coup,
de joueurs qui sont pas mauvais dans l'axe, mais sur les ailes, t'as pas grand monde. C'est pour ça qu'ils jouent en 3-5-2 aussi. Parce
Ok, je
qu'on
comprends
a
bien,
quoi? Il y a
messieurs.
encore Wesley. Oui,
Si je
vas-y.
comprends bien, mais si je comprends bien, messieurs, peu importe l'avant-centre, ça ne change rien car l'effectif du TFC est encore trop faible actuellement.
Pour moi, Antis, quand même, il peut vraiment percer et montrer un excellent niveau. Mais il lui faut quand même un point de fixation où il lui faut quelqu'un qui soit à côté et qui puisse jouer aussi des ballons de la tête. Même si il a prouvé qu'il pouvait marquer de la tête, Antis. Mais il faut qu'il ait un peu de liberté. Pareil pour Adli. Mais par contre, faut il faut qu'il soit mis dans l'axe, quoi. Faut qu'ils soient mis dans leur vraie position.
Ok, bah après si, je pense que si tu parles de l'effectif. Certes, moi c'est vrai que je pense que voilà, on devrait aussi donner peut-être un peu plus la chance au duo Antiste-Adli, peut-être. Mais il y a aussi un autre qu'on oublie, mais bon, qui a été un peu mis au placard, c'est Adil Taoui, tout simplement, qui finalement a été prié de trouver un nouveau club. Et c'est peut-être un peu dommage parce que c'était un pitchoun qui semblait, surtout, on voit notamment au niveau de l'épopée de la Coupe Gambardella, qui semblait vraiment être intéressant. Et malheureusement, voilà, il y a eu des échauffourées un peu apparemment avec Garand. Et donc là, il a été prié de trouver un nouveau club. Il a été sanctionné il y a 2 semaines là, par le TEF. Donc c'est vrai que là, il y a aussi Bayo. Saïd qui va, je ne sais pas exactement, je ne sais pas si tu as des infos sur ça, Axel, mais Saïd qui va sûrement revenir dans les semaines à venir. Voilà.
Saïd, ça fait un an qu'on l'a pas vu, donc
Ouais,
Je
mais
crois
je
que
ne sais pas
beaucoup
du
l'avaient
tout ça va
oublié,
être compliqué.
parmi
Hein.
les supporters. Beaucoup
Ouais.
l'avaient oublié, à mon avis, parmi les supporters toulousains, Moussa Saïd, en effet.
Donc bon, donc là c'est sûr que non. Écoute, enfin moi je pense, Julien, qu'on essaie de construire, enfin que Patrick Garand essaie de construire avec ce qu'il a. C'est sûr que c'est, voilà, il y a pas mal de joueurs, mais c'est vrai qu'au niveau offensif des fois ça manque un peu, comparativement surtout au milieu qui est plutôt bien fourni. Donc je pense que c'est peut-être un point intéressant qu'il faudra avoir pour le mercato hivernal.
Ok, très bien, merci monsieur. On voit qu'il y a une petite préférence quand même pour le duo Adli-Antiste et puis Koulouris apparemment définitivement au placard. D'ailleurs, pour information, il ne sera pas de la partie face à Nancy pour le match de ce soir. Merci beaucoup. Maintenant, on va distribuer les récompenses avec les top et flop.
vous allez peut-être être surpris par ma saucisse.
On va commencer par toi, Thomas. Qui a brillé samedi soir?
Alors, moi, vraiment, le joueur que j'ai trouvé, voilà, qui a surnagé un peu dans cette rencontre, enfin, parcimonie, parce qu'à la fois, il n'a pas été toujours au meilleur de son niveau, c'est Vandenbomen, hein, forcément. Un but, une passe décisive, voilà, que demander un peu de mieux. Il a eu un gros coup de mou, par contre, en seconde période. Mais voilà, c'est montré à quel point, en fait, il est important dans l'effectif du TEF aujourd'hui. C'est là, ça passe sur justement la passe qu'il fait à Elé. Enfin, j'invite tous les amoureux du foot à aller la voir parce que, bon, là, peut-être que je m'enflamme un peu, mais il y a un peu d'Iniesta dans cette passe.
Et, la passe voilà, est belle. Après, c'est peut-être pas Iniesta, en effet. Mais la passe
écoute,
est belle.
Voilà, écoute, on s'enflamme un peu, mais c'est pas grave, c'est bien. Mais du coup, voilà, pour moi, honnêtement, il mérite voilà, d'être mis en avant sur ce match.
C'est bien vrai. Et toi, Axel, même avis ou alors quelqu'un d'autre t'a tapé dans l'œil?
Bah alors, moi, il n'y aura pas d'Iniesta de la Garonne. Ça va être plutôt Manu Koné, je pense, que je vais mettre en avant. Même si, oui, Vandenbomen, il a une telle patte qu'avec juste deux coups de pied, il peut débloquer la rencontre. Mais c'est vrai qu'il a été un peu plus discret pendant le reste de la rencontre. Là où Manu Koné, lui, était toujours là. C'est le seul qui, quand le TFC était en dessous de tout, a réussi à créer des différences, à créer le danger. Le problème, c'est qu'il était tellement seul qu'à chaque fois, il était obligé de dribbler 2-3 joueurs. Personne, il n'avait pas de solution. Et il finissait par s'enfermer, quoi. Mais franchement, j'avais critiqué Manu Koné la semaine dernière. Là, j'étais agréablement surpris de le voir à ce niveau-là. Et s'il continue à dynamiter des défenses comme ça, il suffit qu'il y ait des appels devant lui ou sur les côtés et ça peut faire très mal.
Oui, c'est vrai, on a vu Manu Koné très remuant et très entreprenant aussi à vouloir tenter des frappes. Donc les deux joueurs que vous avez cités méritent amplement leur récompense. Et au contraire, Axel, quel joueur n'a pas été au niveau pour toi?
Je vais taper sur l'ambulance, hein, mais Steven Moreira. C'était catastrophique samedi, hein. À l'image d'Antiste. Antiste aussi, on aurait pu le mettre dedans, mais là, moi je vais taper sur Moreira parce qu'il ratait tous ses contrôles, il se faisait tout le temps manger sur le côté, et c'est pas possible d'avoir un arrière-gauche de ce niveau-là pour l'instant.
Très bien, et toi Thomas, qui t'a déçu?
Bah, moi je suis assez d'accord avec Axel sur le côté de Antiste, qui voilà, il a fait de très belles performances depuis ce début de saison, on l'attend forcément maintenant à un niveau un peu au-dessus. Mais finalement, c'est pas lui que je vais désigner, c'est plus Bafodé Diakité. Pareil, la saison dernière, ça a été un des seuls avec Koné vraiment un peu illuminé, en fait, simplement les matchs moroses hein, des supporters du TEF. Là, encore une fois, on le disait tout à l'heure dans le débat, pour moi, voilà, il a manqué vraiment de mordant. Et même au niveau des duels, c'est censé être son point fort. On l'a vu contre Brest l'année dernière, il met un doublé de la tête. Là, il était vraiment aux abonnés absents. Les attaquants simplement adverses arrivaient toujours à lui prendre la balle. Donc voilà, autant sa seconde mi-temps était un peu mieux, mais on attend vraiment autre chose hein, de Bafodé Diakité.
C'est vrai qu'on attend beaucoup plus de ces joueurs. Et Moreira, bon, on ne sait pas, ça fait plusieurs semaines qu'on lui tape dessus. On verra. En tout cas, on va continuer avec eux. Merci beaucoup, messieurs. Valentin Larquier nous rejoint désormais pour le top d'éclat.
Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Ronaldinho, machin, chouette. Rien à foutre.
Salut Julien, ouais, on va commencer ce top d'éclat en s'envolant vers le Sussex sur le gazon du Folmer Stadium de Brighton. Menant 1-0, Liverpool vient de perdre 2 points sur un pénalty obtenu par Welbeck dans les ultimes minutes du match. Alors je vous cache pas, ça a énervé Klopp, mais il y a autre chose qui a posé problème aux yeux du coach allemand des Reds, écoutez.
Yeah, I think the situation's well. The two offside I ask, I didn't see the feedback, but our analyst said, yeah, it was really close with more, I think. Was a foot, but we are used to armpits and club badges.
Klopp fait référence au but de Mo Salah inscrit à la 35e minute de jeu, signalé hors-jeu après l'intervention de la VAR. En gros, le coach allemand explique qu'il aurait aimé voir le hors-jeu parce qu'il n'a pas eu de retour, que c'était vraiment hyper juste de juger dans un sens ou pas dans l'autre. Et il a cette phrase à la fin, notamment, on est habitué au hors-jeu de l'aisselle ou du badge du club. En effet, l'action du hors-jeu sur le but de Salah se joue vraiment au millimètre, peut-être bien à l'épaisseur du revêtement des crampons de l'Égyptien, ce qui agace vraiment le coach des Reds. Alors si au vu du match, le nu final n'est pas scandaleux, c'est pas la première fois que le champion en titre a quelques petits tumultes avec l'assistance vidéo. Face à Everton, il y a plus d'un mois, Anderson croit donner la victoire aux siens au bout du temps additionnel, mais le but est refusé pour un hors-jeu du passeur Sadio Mané, presque impossible à déceler à l'œil nu. Donc le VAR est un sujet toujours aussi clivant. Ce qui est moins clivant en revanche, c'est ça va faire l'objet de la deuxième déclat du jour. C'est le niveau de jeu du PSG en ce moment, vraiment pas terrible, on va pas se cacher. Samedi soir, après le nul contre les Girondins de Bordeaux et une deuxième mi-temps des plus compliquées, Thomas Tuchel n'était pas du tout content en conférence de presse.
Je veux pas accepter notre deuxième mi-temps. si on joue, c'était 11 individualistes. Pour moi, on a manqué tous pendant les deuxièmes mi-temps. On ne peut pas jouer un match en Ligue 1 comme ça. Ce n'est pas assez sérieux. Ça demande le jeu. Demande qu'on donne tout.
Alors c'est vrai que Thomas est un peu tendu en ce moment. Ce week-end, il reprochait à ses joueurs leur investissement sur la rencontre contre les Girondins. En revanche, la semaine dernière, après la victoire contre Leipzig en Ligue des Champions, il n'avait pas du tout, mais pas du tout aimé les remarques des journalistes sur le jeu de son équipe et sur la motivation de ses joueurs.
J'ai l'impression que vous demandez toujours les mêmes choses. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Morts. Ils ont donné tous, donné leur cœur, donné tous physiquement. Et je suis fatigué de répondre toujours des attentes de vous comme ça.
Donc voilà, on l'entend très énervé, le coach allemand, mais on va finir ce top d'éclat avec un homme moins en colère. Quoique, mort de Maradona oblige, et dans les flots d'hommages au Pibé d'Euro, on a tout à l'heure entendu le super témoignage de Wafik récupéré par Thomas. On ne pouvait pas passer à côté des mots de Christian Gourcuff, entraîneur du FC Nantes.
Je trouve un peu déplacé tout. Enfin, dès qu'une personne meurt, on le trouve toutes les qualités. Enfin, Maradona, moi, je l'ai admiré. Je l'ai vu évoluer dans ses meilleures années. Bon, sur le plan technique, sur le plan de la virtuosité, c'était phénoménal. Après, je dirais, au niveau sans doute, c'est un chic type. Hein, je connais pas, mais il a eu une vie qu'on peut pas mener en exemple, quoi, dans le. Enfin, faut relativiser. C'est pas parce qu'il est décédé que c'est devenu tout de suite un. Quelqu'un qui est un exemple pour la jeunesse.
Donc là, voilà, en gros, il dit que Maradona avait toutes ses parts d'ombre et tout, avec la drogue, etc., et qu'on ne pouvait pas en faire un exemple. Donc les gars, est-ce que vous partagez l'avis de Christian Gourcuff de refuser d'ériger Maradona en exemple malgré sa mort aujourd'hui ?
Il arrive, ça restera une légende. Hein. Peu importe toute la cocaïne qu'il a prise, c'était quand même un sport de foot exceptionnel. Hein. Donc je ne partage pas l'avis de Christian Gourcuff personnellement. Peut-être qu'il n'aime pas le même football que nous.
Ouais, et puis au-delà de ça, il a certaines phrases dans sa vie, mais c'est aussi ce qui fait son personnage, quoi. Et puis on l'érige pas forcément en héros, on l'érige en héros footballistique, on l'érige en figure politique, mais on l'a jamais érigé en héros dans sa vie réelle, je pense. Il faut toujours prendre le recul, mais je pense que toutes les facettes de Maradona qui font qu'il est devenu un tel joueur, une telle personnalité.
C'est ça, c'est ce que Wafik disait aussi, tu vois. Moi, je pense que Maradona, il faut le prendre dans son ensemble. C'est un peu aussi l'histoire d'un homme. Finalement, c'est un peu ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à certains joueurs, d'être un peu trop lisse, peut-être de ne pas prendre parti, notamment des fois des questions sociétales. Voilà, moi, je pense que voilà, Maradona était ce qu'il était. Il avait ses phrases, qu'il avait ses hauts très hauts, ses bas très bas. Mais bon, ça restait, ça reste un immense joueur et c'est pour ça, finalement, qu'on lui rend hommage.
C'est pour ça aussi qu'il est tant aimé, hein. Je pense qu'on voit la différence par rapport à Messi. Je suis pas sûr que Messi aura de tels hommages. Je pense pas. Qu'il y aura une telle émotion, quoi.
Alors, on va quand même laisser Messi terminer sa carrière avant de lui rendre hommage. Merci beaucoup, Valentin, pour toutes ces belles déclats. EJT Foot touche à sa fin, mais avant de se quitter, place au traditionnel quiz concocté cette semaine par Simon Magny. Salut Simon.
Salut Julien, et cette semaine je vais vous faire un petit quiz sur les anciens joueurs du TFC. J'espère que vous vous souvenez un peu de ces joueurs qui sont passés par le stadium il y a quelques années. On commence avec un attaquant d'1m77. Je suis né en juin 1991 dans une ville de 70 000 habitants de la péninsule du Jutland. Je signe au TFC en août 2013 pour près de 2 millions d'euros. Non plus, et j'y reste jusqu'en 2017, arborant une chevelure soyeuse.
Toivonen.
C'était Braithwaite, exactement. Martin Braithwaite, qui est actuellement au FC Barcelone et qui a inscrit d'ailleurs dimanche dernier le premier but catalan face à Osasuna. On enchaîne avec le deuxième joueur. C'est un pur Toulousain. Il est né dans la Ville Rose en 1992. Il intègre le centre de formation en 2009 et fait sa première apparition chez les pros 2 ans plus tard, en août 2011. Il s'impose au milieu de terrain jusqu'à devenir capitaine des Violets lors de la saison.
Étienne Didot ?
Non, lors de la saison de 2016, c'est pas non plus lui. Mais au terme de 8 ans de bons et loyaux services, le TFC ne le conserve pas.
Il finit.
Non plus. Il finit par rebondir en Italie en 2018.
Axe Pack Pro.
Exactement, à l'US Salaire. Milana en Serie B pour ensuite arriver en Lazio, à la Lazio où il est actuellement et où il joue depuis 2019. Si mes souvenirs sont bons.
Et qui brille en Ligue des Champions d'ailleurs cette année.
Il a inscrit un but contre Dortmund et exactement, il me semble, le mois dernier. Et le dernier est né à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne en 1995. Mes premiers pas dans le football me mènent jusqu'à Manchester City en 2008, alors que je n'ai que 13 ans, seulement 6 mois chez les Citizens avant de revenir en France. Là, j'intègre notamment le pôle espoir de Castelmaurou, avant d'intégrer le club qui me fera connaître. Mais je ne joue pas assez à mon goût, alors je décide d'aller goûter à la Ligue 1 au TFC en janvier 2013. J'y reste jusqu'à la fin de saison. C'est exactement Adrien Rabiot. Qui est donc maintenant à la Juventus de Turin, après un petit conflit au PSG.
Je perds sur un mec qui est né à Saint-Maurice, putain, honte à moi.
Eh bien, merci beaucoup Simon pour ce quiz. C'est désormais terminé pour cette semaine. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, etc. Vous pouvez également suivre tous les matchs du TFC en direct sur Facebook Live de JT Foot, avec notamment ce mercredi 1er décembre le match contre Nancy à 19h. Soyez au rendez-vous. Sinon, à la prochaine. Ciao.